Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Alors, vous avez bien sûr entendu parler de Jonathan Drouin, l'attaquant du Canadien, qui a pris une pause de jeu et qui a confié au cours des derniers jours en entrevue qu'il souffrait d'anxiété et d'insomnie. On en a parlé hier avec Marie-Claude Barrette, mais ça a provoqué beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui se sont identifiés à ce témoignage de Jonathan Drouin. C'est le cas, en tout cas, de ma collègue Elisabeth Ménard, qui est journaliste pour différentes plateformes de Québecor. Elisabeth, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Elisabeth, dans le 24 heures, tu as écrit un texte extrêmement intéressant qui s'intitule, en fait, c'est tout simple, « Merci, Jonathan Drouin ». Pourquoi tu le remercies, Jonathan Drouin?
Ben, quand j'ai visionné ton entrevue, j'ai eu une réaction de surprise, en fait, parce que je m'attendais pas. L'anxiété, c'est pas quelque chose dont beaucoup de gens parlent publiquement. Je voulais le remercier de l'avoir fait parce que je pense que le fait que quelqu'un qui est connu, qui est une vedette comme lui, et surtout un joueur de hockey qui est tellement adulé, parle de ça publiquement, ça va aider d'autres personnes à en parler aussi.
Oui, parce que tu nous en avais déjà parlé ici à Cube. J'avais fait une entrevue avec toi il y a quelques mois parce que tu avais écrit un texte très touchant, très émouvant, où tu parlais de ta fragilité, de ta vulnérabilité. Est-ce que c'est du courage aujourd'hui en 2021 quand une personnalité publique ou quelqu'un qui est journaliste comme toi qui en parle publiquement, est-ce qu'il y a encore des tabous associés à ça? Est-ce qu'il y a encore un prix à payer quand on parle publiquement d'un problème d'anxiété ou d'autres problèmes reliés à la santé mentale, à l'équilibre mental?
Ah oui, tellement, tellement. C'est encore tabou aujourd'hui. Puis moi, quand j'ai écrit ce texte-là auquel tu fais référence, j'étais terrorisée en fait à l'idée que ça ruine ma carrière.
Ah, à ce point-là.
Je me disais, il y a personne qui va vouloir travailler avec moi, m'offrir des promotions. Finalement, c'est pas le cas. Je vous le confirme, j'en suis heureuse. Mais j'avais vraiment peur d'en parler. Puis je pense heureusement que la réaction, elle a été très positive, justement parce que les choses sont en train de changer, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent là-dedans. Et l'anxiété, c'est universel, hein? Tout le monde en fait de l'anxiété. Certaines personnes plus que d'autres. Pour certaines personnes, c'est plus handicapant. D'autres réussissent heureusement à vivre avec ça, mais je pense qu'on l'a tous déjà ressenti. Donc, le fait d'en parler, ça lève un peu les tabous, mais il en existe encore parce que je pense que d'avouer publiquement qu'on a un problème de santé mentale, puis encore plus dans le domaine du travail, les gens pensent qu'on est peut-être moins compétent, moins apte au travail.
C'est ça, c'est admettre une fragilité. Et s'il y a un domaine où on veut pas être fragile, justement, c'est bien le domaine dans le milieu du travail, parce que justement, c'est tellement compétitif. Puis on a toujours cette idée de se dire, bon ben si c'est pas moi, il y en a 10 autres ou 20 autres qui attendent derrière moi, qui sont prêts à prendre ma place. Donc c'est pas évident. Et quand on regarde quand même le cas de Jonathan Drouin, on peut pas s'empêcher, et tu le fais dans ton texte, de penser évidemment à Simone Biles. Moi, je sais jamais comment prononcer son nom, là. Je vais sûrement faire une erreur. C'est bien Simone Biles, donc, aux Jeux Olympiques cet été, qui, justement, s'est même retirée de la compétition parce qu'elle disait, la pression est trop forte. Il y a aussi des joueuses de tennis. Enfin, il y a vraiment un mouvement où les gens disent, regarde, Oui, il y a mon image publique, mais ce qui est plus important, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de ma personne. C'est ce qu'a fait Jonathan Drouin.
Exactement. Puis Simone Bell, quand c'est arrivé cet été, je me souviens, il y a beaucoup de médias et même des athlètes, dont Michael Phelps, qui l'ont félicité d'avoir priorisé sa santé mentale à la performance. Et là, je me suis dit, OK, on vient vraiment de franchir une étape en tant que société, de comprendre que notre santé mentale, elle est plus importante que la performance. De voir qu'elle était félicitée sur la place publique, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Puis quand j'ai vu la sortie de Jonathan Drouin, j'ai tout de suite pensé à Simone Biles, puis je me suis dit, wow, OK. Parce que Jonathan Drouin, c'est quand même quelqu'un, c'est un joueur de hockey, il faut qu'il soit imposant sur la glace. Donc, parler de ses vulnérabilités publiquement, ça prenait beaucoup de courage de faire ça. Fait que moi, j'avais envie de le remercier et de le féliciter d'avoir fait ça.
Oui, puis aussi, c'est que, tu sais, on le sait, là, la sainte flanelle, puis l'attachement que les Québécois ont à leur sport national... Mais pas juste les Québécois, mais partout au Canada. Tu sais, je veux dire, quand tu joues pour le CH, là, que t'as le CH tatoué sur le cœur, puis qu'il ait choisi de se retirer à un moment aussi crucial. Et je sais pas si ça t'a frappé, toi aussi, Elisabeth, mais le fait que dans les entrevues qu'il a données, qui disent, bon, ben quand j'en ai parlé avec Marc Bergevin et avec Dominique Ducharme, j'ai été accueillie, on a pleuré ensemble. Je me disais, aïe, il y a tant de secondes, là, j'imagine la scène de Jonathan Drouin dans les bras de Marc Bergevin et Dominique Ducharme, puis les trois pleurent. Je me disais, mon Dieu, il y a ne serait-ce que 2-3 ans, et on n'aurait même pas pu imaginer cette scène-là.
J'ai vraiment eu la même réflexion que toi. Puis je dirais, tu as dit 2-3 ans, moi je dirais là, la pandémie en général, je pense que c'est là qu'il est arrivé quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a accepté de parler un petit peu plus de santé mentale. Parce que avant la pandémie, là, j'aurais jamais vu ça, un joueur de hockey qui parle publiquement d'anxiété, qui dit qu'il a pleuré. Je pense que ça a réveillé beaucoup de vulnérabilité puis beaucoup de solitude chez les gens, les confinements, les mesures sanitaires, on comprend. Puis que c'est depuis ce moment-là qu'on accepte d'en parler un peu plus.
Ouais, et c'est intéressant parce que Drouin lui-même le dit à quel point, bon, parce que ils étaient obligés d'être isolés, les joueurs du Canadien, hein, ils étaient obligés d'être confinés dans leur chambre d'hôtel, loin de leur famille, donc il le dit lui-même à quel point la pandémie, que lui avait peut-être un problème à la base d'anxiété ou quoi que ce soit, mais que le fait d'être confiné comme ça, que ça avait pas aidé, en tout cas, ces problèmes d'anxiété. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben, ces gars-là, ils ont beau être des armoires à glace, ils ont beau mesurer 6 pieds 4, puis être une tonne de muscles, à l'intérieur, on est tous pareils. On a besoin de ce contact-là humain, et la pandémie nous est tous passée dessus, là, comme un camion de 12 roues ou de 14 roues, je sais même plus à combien de roues on est rendu dans les camions, là, mais ça a été vraiment un rouleau compresseur sur tout le monde. On a tous été amochés par cette pandémie-là.
Tu le dis très bien qu'on a tous besoin du contact humain, puis moi j'ai beaucoup de compassion pour Jonathan Drouin, pour tous les joueurs de hockey qui font quand même un métier qui favorise l'anxiété. Je veux dire, tu es sur la glace, puis tu faut que tu sois imposant, faut que tu attaques, t'es une cible, des millions de téléspectateurs te regardent, c'est quelque chose qui naturellement va créer de l'anxiété. Mais quand après un match, t'es plein d'adrénaline, faut que tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel pour aller dealer avec les attaques que tu as reçues sur la glace, ça doit être extrêmement difficile de se décharger de ça.
Il y a un autre aspect dont j'avais parlé un petit peu avec Marie-Claude Barrette hier, et c'est l'aspect suivant. Toi, j'imagine que t'es permanente, t'as un emploi permanent, donc j'imagine quand t'as quitté à un moment donné le travail, bon, t'as pu quand même recevoir un certain salaire. Jonathan Drouin, bon, on le sait quand même, un attaquant du Canadien, ça a pas trop de difficulté à boucler ses fins de mois. Et l'organisation du Canadien, elle lui a fourni un psychologue, puis une aide, puis bon, il y a un entourage qui a pris soin de lui. Mais combien de personnes au Québec qui ont des emplois précaires, qui ont pas d'emploi permanent, qui sont pigistes, qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de ce filet de sécurité-là et qu'ils l'ont pas. Et ça, c'est inquiétant. Parce que oui, c'est bien d'encourager les gens à dire, bon, ben, si vous avez des problèmes d'anxiété, allez chercher de l'aide. Mais si tu tends la main puis que l'aide n'est pas là pour toi, ça, c'est un désastre, Elisabeth.
C'est une excellente observation, puis je suis contente que tu en parles parce que en début d'année, j'ai fait un reportage sur des jeunes qui sont décédés après avoir demandé de l'aide en santé mentale. Il y avait quelques cas de surdose et puis des suicides. Donc, je parle de ça parce que, en fait, je trouve qu'il y a une certaine facilité à aller dire si ça va pas bien, demande de l'aide. Mais si l'aide ne vient jamais, qu'est-ce que tu fais? Et puis, malheureusement, dans notre système de santé en ce moment, on n'est pas équipé pour offrir de l'aide en santé mentale. Les listes d'attente sont interminables. Les services sont pas toujours adaptés aux besoins. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'assurance, si tu peux pas aller consulter au privé, quoique même aujourd'hui, il y a des listes d'attente au privé.
Absolument, oui.
Qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas bien entouré? Puis là, je veux pas être plate, mais j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse à qu'est-ce que tu fais. J'espère juste que notre système de santé va s'adapter à ça parce que la pandémie a créé beaucoup de détresse, beaucoup plus qu'il y en avait déjà. J'espère qu'il y a quelque chose qui va être fait là, dans les prochains mois.
Oui. Elisabeth, c'est une réflexion extrêmement intéressante, donc j'encourage tout le monde à aller lire ton texte. Merci, Jonathan Drouin. Donc, merci, Elisabeth Ménard, journaliste au 24 heures et pour différentes plateformes de Québécois. Merci beaucoup, Elisabeth.
Merci, Sophie.
Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Maxime Lacasse à la mise en onde, la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Florence Dastou à la recherche. Et on se retrouve.